Bonsoir à tous. Bon, nous allons commencer cette séance du séminaire école. Merci d'être là. Entre tous ceux qui sont malades ou déjà partis en vacances, merci d'être là. Nous allons entendre aujourd'hui donc Anastasia Tsavidopoulou, qui vous connaissez, qui est psychanalyste à Paris, et Bernard Lapenali, que vous connaissez aussi, qui est psychanalyste à Nice. Donc Anastasia qui nous parlera de qui pourrait-on dire d'une position politiquement analytique. Donc je passe.
Bonsoir. Merci. Alors, si cette expression de Lacan, l'inconscience politique, expression que nous sommes invités à commenter cette année, paraît dans un premier temps surprenante, c'est parce qu'elle impliquerait, en étant ensemble, mais aussi dans un ordre précis, deux termes qu'on aurait tendance à penser antinomiques, Elisabeth le signalait déjà lors de la dernière séance. L'inconscient, terme par excellence subjectif, individuel, pas d'inconscient collectif, ça a été rappelé dans l'argument du séminaire, est l'objet de la psychanalyse. C'est ce qui a permis à Freud d'inventer le dispositif analytique et à Lacan de faire son retour à Freud. Lacan rappelait en 1974 qu'il n'existe pas de psychanalyse collective comme il n'y a pas donc des angoisses ou des névroses de masse. Rien de plus propre à chacun que son inconscient. Alors que la politique, au sens de la police, des affaires dans la cité, nous amènerait vers un collectif, vers une identification, un discours commun, incarné souvent par un maître. Discours qui engloberait des révoltes et des mots d'ordre, des protestations, des revendications et contestations, suivi de satisfaction ou d'insatisfaction, d'espoir ou de désespoir. La politique serait une affaire commune, symbolisée par un slogan tel que « un pour tous et tous pour un », où les tous l'emporteraient sur les un. Si l'inconscient dans les dispositifs analytiques invite les sujets à écrire sa petite histoire en historisant, la politique l'inviterait plutôt à écrire l'histoire ou à s'écrire dans l'histoire, celle avec un grand H, pour les dire différemment et en faisant référence à la troisième. Dans la psychanalyse, nous serions plutôt amenés à être les non-dupes de l'autoroute, à quitter sa politique, ses normes sociales et ses injonctions normatives, cette direction du discours dominant suivi du troupeau, pour emprunter plutôt des petits chemins, les chemins de l'inconscient tout en étant dupe, là où les symptômes, sa formation par excellence, se manifestent. De surcroît, ces symptômes revendiqueraient une fixation de jouissance particulière, différente d'un modèle standard et universel que chaque époque impose. Quelque chose comme un antidote à la politique et au discours collectif. Si nous pouvons être sous la même bannière de la politique, impossible de l'être sous celle de l'inconscient. D'où l'antinomie qu'on pourrait repérer dans un premier temps dans cette expression de Lacan, entendue comme un mot d'ordre, mais suivi d'un point d'interrogation, une sorte de paradoxe. Comme tout mot d'ordre, il oriente, mais comment? Telle sera ma question, de quelle orientation s'agit-il? Lacan, dans la leçon du 10 mai 1977, d'où cette expression est extraite, est après avoir fait référence à Freud et son fameux aphorisme « L'anatomie, c'est le destin ». Aphorisme d'une certaine portée politique, car Freud propulse la sexualité dans la cité, lit ces deux termes, inconscient et politique, dans un ordre précis qu'il souligne lui-même, je cite, et je ne dis même pas que la politique c'est l'inconscient, mais tout simplement l'inconscient c'est la politique. Il ne donnera pas beaucoup plus de précisions pour éclairer ses propos, sauf pour nous orienter vers la logique dans le paragraphe d'après. Cet ordre que Lacan souligne a son importance. Il déplace l'inconscient, pris comme une notion, François Terral l'a déjà évoqué la dernière fois, pour l'amener vers la cité, vers la civilisation et son malaise. Cet ordre nous oriente vers une première lecture de ces mots d'ordre lacanien, mots d'ordre interrogatif. L'inconscient imposerait son discours et guiderait notre politique, c'est-à-dire nos choix et notre position dans le monde en tant que sujet. Notre voix, pour chacun particulière, se retrouverait camouflée par les signifiants que chaque modernité nous commande. Je dis camouflée car l'expérience sur les divans, comme Lacan le soulignait, montre que chaque sujet a ses propres phobies, ses propres angoisses, mais surtout sa propre manière de les raconter. Il y aurait sans doute une deuxième lecture à faire qui n'est pas sans lien avec la première, celle du discours analytique et ses effets dans la cité. L'inconscient et la politique seraient-ils une façon pour Lacan de signaler que la psychanalyse, en tant que découverte freudienne de l'inconscient, aurait une portée politique dans notre monde. Pour paraphraser, pourrait-on formuler « la psychanalyse, c'est la politique ». Depuis que Freud l'a fondée, l'inconscient a été et toujours un événement pour notre civilisation. L'inconscient de Freud, disait Lacan, c'est ça, c'est l'incidence de quelque chose qui est complètement nouveau. Freud, d'ailleurs, a considéré la psychanalyse comme une révolution, même s'il fait le constat, dans le malaise dans la civilisation, que celle-ci n'apportera aucune consolation. Il propose à l'humanité sa troisième blessure narcissique, suite à celle de Copernic et de Darwin. La Terre n'est pas le centre de l'univers, et l'homme doit reconnaître sa descendance du règne animal. L'homme, pour la psychanalyse, est loin d'être le maître de sa maison. Il doit reconsidérer son pouvoir, il est en conflit avec lui-même. En bouleversement des savoirs et des idées établies, nous assistons, avec la découverte de l'inconscient, à une nouvelle ère. De nouveaux concepts provoquent une subversion qui déplace les statuts du savoir. Le discours analytique permet un nouveau lien social, l'inconscient est dans la politique de son temps. L'inconscient nous a changé le monde, disait Lacan au début des années 60. Le discours analytique fait partie du monde et de notre civilisation. Et ne peut exister que parmi les autres discours auxquels le sujet, futur analysant, s'attache et se réfère pour entrer dans le discours analytique. Je résume donc des lectures. L'inconscient conduit la position du sujet dans le monde. Et l'inconscient, en tant que découverte freudienne, change ce monde. Les sujets dans la cure s'historisent en s'appuyant sur ses signifiants, tout en faisant partie de l'histoire et ses signifiants dominants. Les sujets s'historisent dans l'histoire de son époque, elle-même bouleversée par la découverte freudienne. Je vais revenir avec quelques exemples chez Freud et chez Lacan sur ce que j'appelle dans mon titre une position politiquement analytique. La question semble plutôt délicate. Sous ces mots d'ordre paradoxal, car interrogatif, la position du psychanalyste Freud et celle du psychanalyste Lacan serait, dans l'articulation de deux lectures, une position d'orientation politiquement analytique et non pas politique. Il s'agit chaque fois d'un énoncé d'une visée analytique toujours connectée au monde et à l'histoire dans lesquelles la pratique psychanalytique évolue. Ce monde a une importance vitale pour la survie de la psychanalyse. Si l'inconscient n'est pas démocratique, il est politique, le discours analytique est menacé dans certains États, les États totalitaires en l'occurrence. Question aussi délicate au regard de l'anecdote racontée par Wilhelm Reich au sujet de Freud. À la question « Qui êtes-vous politiquement ?», Freud répondait « Politiquement rien ». Freud a politique. Les exemples qui témoignent le contraire sont nombreux. La préoccupation politique de Freud était toujours constante dans ses écrits. la civilisation et son progrès, la guerre, la religion, la violence. L'histoire, dans sa conjoncture de la Première Guerre mondiale et sous l'auspice de la Deuxième, le conduit à se positionner en tant que psychanalyste dans des contextes politiques et géopolitiques d'une importance majeure. Les psychanalystes devraient être vigilants aux turbulences politiques de leurs époques. C'est aussi une des voies du séminaire de cette année. Freud l'était, il était en tant que psychanalyste. L'affaire Reich est un exemple significatif. Theodor Reich est accusé d'exercice illégal de la médecine. Cette affaire conduit Freud à écrire en 1926 la question de l'analyse profane et à se positionner politiquement à propos de l'exercice de la psychanalyse. C'est un travail de circonstances, écrivait Freud, des circonstances politiques, nous ajouterons. Le charlatan, signifiant de l'affaire Reich, n'étant pas celui qui n'avait pas de formation médicale, mais celui qui pratiquerait la psychanalyse sans avoir une formation analytique, sans être analysé, et par conséquent, sans avoir l'art de l'interprétation et le maniement du transfert. Il faudrait avoir en tête le contexte de l'époque. Nous pouvons, dit Freud sans risque, affirmer que, pas uniquement dans les pays de l'Europe, ces charlatans sont pour l'essentiel des médecins. Ceux-ci pratiquent le plus souvent les traitements analytiques sans l'avoir appris et sans le comprendre. L'allusion aux États-Unis est bien présente. Freud, malgré son accueil chaleureux quelques années auparavant, était plutôt méfiant sur la possibilité de l'exercice de la psychanalyse dans ces pays par les non-médecins. Même si l'affaire Reich s'est terminée sans sanction pénale, elle lui permettra de défendre la psychanalyse laïque sur les vieux continents. La question sous une forme différente est toujours d'actualité, mais j'oserais qualifier la détermination de Freud qui met l'accent sur l'exigence, les mots et de lui, l'exigence de la formation analytique comme le paradigme d'une position politiquement analytique. Il s'agit de la rigueur et de l'éthique de Freud pour soutenir l'acte psychanalytique et son objet, l'inconscient. On pourrait même qualifier son intervention théorique comme un moment essentiel, crucial de l'histoire de la psychanalyse, car il a permis d'une part à ses contemporains de se positionner et de prendre acte des enjeux politiques de l'époque, époque où l'exercice de la toute jeune psychanalyse était menacé, et d'autre part de produire un énoncé, un savoir qui allait dépasser son époque et son actualité, en nous mettant en garde de ce que l'exercice de la psychanalyse avec la découverte de l'inconscient peut déclencher. Les signifiants peste, signifiant de son temps et significatif. Si Freud se réclamait politiquement rien, sa position politique n'était rien de moins qu'une orientation analytique. Freud politiquement rien, une discussion avec une collègue m'amène à cet épisode raconté par Peter Gay dans Freud in Vis, une biographie de Freud. Avant de quitter Vienne, envahie par les nazis, le régime hitlérien oblige Freud à remplir et signer un questionnaire confirmant sa confiance dans le régime. Freud le fait et ajoute un post-scriptum tout en bas de la feuille. Je peux cordialement recommander la Gestapo à tous. Nous sommes en 1938 et Freud, psychanalyste, aux antipodes d'une position militante, ne signe pas un questionnaire nazi. Il signe un Witz d'une portée par excellence politique, mais d'une orientation analytique. Une trouvaille reportée à sa découverte l'inconscient. Sa dédicace à Mussolini de l'ouvrage « Pourquoi la guerre ?» est du même esprit. Nous reconnaissons l'ironie comique de Freud dans un contexte historiquement tragique. Qu'il s'agisse de la production d'un ouvrage ou d'un mot d'esprit, la position politique de Freud porte sur une question analytique et avance un énoncé qui change l'écriture de l'histoire, l'histoire de la psychanalyse, et l'écriture même de l'histoire de Freud. Lacan suivrait-il ses pas? Lacan apolitique? En tout cas, tout comme Freud, il n'échappe pas à la question. La psychanalyse est-elle révolutionnaire? Lui demandait un étudiant à Vincennes en 1969. Avait-il déjà répondu quelques années plus tôt avec une autre question? Qui entre vous écrira un essai sur l'indifférence en matière politique? Questionnait-il son auditoire en 1965. Déjà, dans les séminaires L'éthique de la psychanalyse, 59-60, il se réfère aux intellectuels de gauche qu'il associe à la sottise et aux intellectuels de droite qu'il associe à la canaillerie. Les termes d'indifférence, ou plutôt de l'indifférentisme en matière politique, apparaîtra aussi dans le même séminaire, mais comme une question face à la politique. Et ceci en précisant par la suite que l'éthique de Freud dans le malaise était humanitaire et non pas progressiste, c'est-à-dire pas intéressée par l'expérience marxiste. C'est ce que revendique Lacan lui-même avant scène, pour lui-même avant scène, être un anti-progressiste. Freud humanitaire, Lacan anti-progressiste, quid? Quand Lacan, dans les mêmes séminaires, précisait à propos de Freud que ceci n'était aucunement une imputation politique le concernant, seulement il ne participe pas à certains types de préjugés bourgeois. Car il est progressiste, disait Lacan, de voir s'effondrer les discours psychanalytiques. Quid de Kant, comme nous l'avons rappelé, l'expression « l'inconscience et la politique » viendra quelques années plus tard, suite à l'expression freudienne « l'anatomie, c'est le destin », expression dans laquelle on entend sa considération politique. Lacan n'était pas moins soucieux que Freud de l'avenir de la psychanalyse, de la portée du discours analytique et de ses effets sur les autres discours. C'est la position politique du psychanalyste Lacan. Il exprimait son inquiétude en évoquant déjà, dans son interview en Italie, le moment de la troisième, 74, que la montée de la religion ou de la science n'est pas sans effet pour la survie de la psychanalyse. Par ailleurs, dans son séminaire de 1977, le moment de conclure, il évoquait que la psychanalyse en tant que pratique de bavardage, elle durera ce qu'elle durera, car aucun bavardage n'est sans risque. Lacan donc, même le dernier Lacan, manifestait un certain scepticisme quant à l'avenir de cette discipline dans l'un processus, comme disait Freud. Si Lacan était préoccupé par la disparition de la psychanalyse, il invitait surtout les psychanalystes à rejoindre la subjectivité de son époque, car nul psychanalyste ne peut se retirer du monde et des discours de son temps. Nul psychanalyste ne peut être apolitique. Les propos de Lacan en 1938, Grève de la faim, au sujet de l'anorexie mentale, illustreraient le rapport entre le sujet et son époque, en mettant aussi l'accent sur l'oreille politique du psychanalyste. Quelques décennies plus tard, en 1970, il dira, en parlant de l'hystérique, que c'est des refus du corps dont il s'agit, et aussi qu'elle fait à sa façon une certaine grève, avec un signifiant d'une ampleur politique et sociale, le signifiant grève. Il mettrait en relief la position subjective du sujet face au discours dominant du capitalisme et les signifiants qui le soutiennent. Une version anarchiste, une version historique, hystérique de la politique. Dans le même sens, Lacan évoquait le fait révolutionnaire des symptômes pour souligner que les symptômes s'opposent, fait objection aux injonctions d'un mode de jouissance ou des modes de jouissance que la civilisation prescrit. Voilà le fond politique de l'attention. Lacan a pris aussi position à des moments politiquement cruciaux. En particulier, suite aux événements de mai 68 et les contestations des étudiants face à une société de consommation et un système d'éducation autoritaire, et hiérarchique. Il intervient à l'université de Vincennes pour déclarer les célèbres « C'est à quoi vous aspirez comme révolutionnaire, c'est un maître, vous l'aurez ». Et aussi, le premier à y collaborer, et ici même à Vincennes, c'est vous, car vous jouez la fonction des zélotes de ce régime. Il continuera quelques années plus tard, dans cette même direction, pour ajouter « Il n'y a pas de discours du maître plus vache qu'à l'endroit où on fait la révolution ». Il s'agit de la position politique du psychanalyste Lacan, une autre voie pour passer sa révolte, la sienne. Cette position de Lacan n'était pas sans rejoindre celle de Michel Foucault qui déclarait, d'une manière plutôt ironique, nous sommes en plein structuralisme, à propos des manifestations de cette époque, s'il y a quelque chose que démontrent les événements de mai, c'est précisément la descente des structures dans la rue. La contestation, signifiant dominant de la révolution de mai 68, Lacan le reprend en tant qu'analyste. Je cite « La contestation, c'est moi qui la guette. Et c'est pour un objet qui m'intéresse éminemment, pour ce qu'elle confirme ou infirme de ces niveaux où je situe la structure d'un discours. C'est évidemment parce que le discours dont il s'agit, je le regarde d'ailleurs. Je le regarde d'un endroit où me situe un autre discours dont je suis l'effet. De cet autre endroit où Lacan se situe, il soutient ce que j'appelle une position politiquement analytique. Il est fait lui-même de la découverte de Freud, il est fait de l'inconscient. Et si Lacan prend la parole dans ce contexte révolutionnaire, en évoquant avec ironie les révolutions et en se servant pour cela de l'astrophysique, et plus précisément des mouvements des astres, c'est pour signifier l'idée d'un changement, d'un bouleversement, celui d'un mouvement périodique, d'un retour à la même place. Faire la révolution signifie revenir au point de départ, dira-t-il à Milan en 1972. Il revoit, il renvoie la révolution au retour, à la même place, et ceci dans le but d'une articulation analytique, désigner le réel et son rapport à la conscience. Voilà la position de Lacan qui ne cesse pas d'orienter, de produire un énoncé pour penser la psychanalyse. C'est sa politique. Pour conclure, le psychanalyste dans la cure n'a pas à dicter une position au sujet analysant ou à orienter sa place dans la société. Il a par contre le devoir d'orienter la cure dans le but de dévoiler l'inconscient. Le psychanalyste Freud et le psychanalyste Lacan, confrontés aux affaires politiques de leur temps, ont donné chacun, dans un style différent, non pas une orientation politique, militante ou sociale, mais une orientation de l'inconscient. L'expression « l'inconscient, c'est la politique », formulée comme un mot d'ordre paradoxal, car interrogatif, impliquerait dans sa structure même une orientation particulière, une orientation analytique. Elle impliquerait, suite à celle de Freud, une orientation qui vise l'objet de la psychanalyse. Merci.